Mesdames et messieurs, bonjour.
Madame, monsieur, bonjour.
Tu m'entends pas là? Je te dis que j'ai pas de retour. Mais je m'en fous qu'on soit à l'antenne. J'ai pas de retour, je parle pas.
Retrouvez toute l'info chartreusine sur Radio Couleur Chartreuse.
Du lundi au vendredi, en direct à 11h.
Dans Chartreuse Info.
Chartreusins, chartreusines, bonjour, bienvenue sur les ondes de Radio Couleur Chartreuse. Nous sommes bien le vendredi 20 septembre et on est ensemble comme tous les jours de la semaine en direct et de 11h à midi. Mais aujourd'hui c'est un petit peu exceptionnel parce que j'ai un invité, je vous présente Claude Andrieux.
Bonjour.
Qui va en fait animer un ciné-débat au cinéma Le Quartus le 25, retenez bien votre soirée, au sujet de son premier long métrage qui s'appelle Les éléphants perdus. C'est magnifique ça. Titre.
C'est à 20h30 mercredi prochain.
Voilà. Donc, du coup, je vous ai choisi une citation du jour en rapport avec ce film. Elle est de Björk, du coup, parce que c'est... En fait, l'histoire du film, ce sont deux personnes qui partent à la recherche de... qui doivent rencontrer la chanteuse Björk en Islande.
C'est ça. Il y a un contrebassiste qui doit auditionner pour elle, pour voir s'il va être pris dans son groupe. Et son chauffeur, qui est aussi quelqu'un qui est là pour le protéger et pour s'occuper de lui, parce que c'est un enfant qui sort de l'adolescence et qui est un peu difficile. Et son père veut toujours avoir la main sur lui, donc paye quelqu'un qui sera son chauffeur, puisque lui n'a pas de permis. Et voilà, les deux hommes partis pour traverser l'Islande à la rencontre de Björk. Et évidemment, rien ne va se passer comme prévu. C'est un peu les Laurel et Hardy, mais sans le rire de Laurel et Hardy, le petit gros et le grand maigre, le jeune et le vieux. Voilà, rien ne va entre eux, et en même temps, grâce à les conflits qui vont s'accumuler entre eux, ils vont résoudre bien des problèmes.
Oui, c'est le principe des duos du cinéma, voilà. Comme dans La Chèvre,
c'est
avec
ça,
Pierre
exactement.
Richard, tout ça. Donc, ils sont partis pour rencontrer Björk. Et Björk, justement, je ne sais pas si je prononce bien son nom.
Björk.
Ouais,
oui,
Björk.
On dit Björk.
Elle a dit, je vais prouver que l'impossible existe vraiment. Et donc, vous, Claude Andrieux, vous l'avez prouvé aussi en tournant ce long métrage dans des conditions assez difficiles, il me semble.
Oui, les conditions étaient difficiles, mais on le savait dès le départ.
Bah hein. Oui, forcément.
Peu d'argent, des journées courtes. Exténuante parce qu'on était une toute petite équipe. Normalement, une équipe de cinéma, c'est entre 30 et 40 personnes. Là, on était 10. Et sur les 10, il y avait 4 comédiens. Donc voilà, on était plus de 6. Donc, mais c'était un pari, hein, on l'a tenu. C'était exaltant. C'était une merveilleuse aventure. Mais c'est vrai qu'il y a eu des moments difficiles. On a eu une panne de camion. Et comme le camion joue dans le film, si jamais on n'avait pas pu réparer notre camion, on était obligé de trouver un deuxième camion, de refaire tous les plans qui avaient déjà été faits. Enfin bon, on a eu des soucis de tournage comme ça, mais dans l'ensemble, ça s'est très très bien passé.
Oui, ça c'est le problème quand en fait, s'il manque une seule personne, tout s'effondre.
Bien sûr.
Très chaud.
Ouais.
Et donc vous êtes en fait le second d'une famille de 12 enfants.
Oui.
Je me suis dit, mais du coup, vous alliez au cinéma quand vous étiez petit?
Alors figurez-vous que je suis né à Échirolles et qu'à Échirolles, il y avait un cinéma qui était à 300-400 mètres de chez nous, du HLM où j'habitais. Et donc j'ai vu mes premiers films, je devais avoir une dizaine d'années. Je me souviens que il y avait des James Bond qui passaient à l'époque le dimanche. Et je me souviens de ça, ouais.
Parce que le cinéma, à l'heure qu'il est, c'est assez cher quand même. Si vous étiez 12, vous pouvez pas
oui.
Aller au cinéma en famille.
Ah non, on n'allait pas en famille. Moi, j'allais au cinéma.
Ah, tout seul.
Mais oui, tout seul ou avec un de mes frères ou avec mes deux frères les plus grands. Mais vous savez, on est 12, mais ma dernière petite sœur a 20 ans d'écart avec moi. Donc, elle n'était pas née quand j'allais au cinéma.
Ah oui, c'est vrai.
On n'était pas 12 en même temps. Hein.
D'accord.
Et puis, il faut savoir que la mairie d'Échirolles, alors je ne sais pas de quel bord elle est maintenant, mais à l'époque, elle était communiste. Et donc, il y avait des places très peu chères pour les jeunes. Si on prouvait qu'on avait moins de 18 ans, je crois, à l'époque, ou 16 ans, c'était du style... Je ne veux pas dire d'annerie, mais 3 francs, quoi. Enfin, voilà, on pouvait se payer au moins un cinéma par semaine.
Et votre premier film, vous vous en rappelez? Ça a été un déclic?
Non, je ne m'en rappelle pas. En fait, je crois que c'est ce qui m'a amené au cinéma, c'est le cinéma des années 70. C'est, je me souviens d'un choc terrible en voyant pour la première fois Apocalypse Now.
Ah oui.
Avec la musique des Doors.
Ah oui.
Avec The End et tout ça. Et ça m'a, je me suis dit, mais on peut mettre de la musique que j'aime. Donc là, c'était du rock sur des images. Ça m'a complètement bouleversé et j'étais très attiré par la photographie. Donc en plus, je suis musicien donc depuis toujours, je pense. Mais ma première guitare, je devais avoir 12 ou 13 ans quand je l'ai achetée. Donc je me suis dit, si on peut lier images et sons, c'est merveilleux, quoi. Donc voilà, je suis parti sur cette branche.
Bon, on va voir la suite dans quelques minutes. On va faire une pause musicale, donc avec une chanson de Björk qui s'appelle It's Oh So Quiet.
So still, shh, shh, you're all alone, shh, shh, and so peaceful until you fall in love. Simple, the sky up above, simple, is caving in. Wow, wow! You never been so nuts about a guy. You wanna love, you wanna cry, you cross your heart and hope to die till it's over, and then shh, shh, it's nice and quiet, shh, shh, but soon again, shh, shh, starts another big riot.
Je suis toujours avec Claude Andrieux et on parle cinéma. Alors, vous avez commencé dans les documentaires pour la télévision et un des premiers, vous avez emmené en fait une bande de schizophrènes en montagne.
Oui, alors je ne les ai pas emmenés. J'ai suivi un aide-infirmier qui s'occupait, qui tentait de s'occuper de sortir les schizophrènes dont il s'occupait, de les sortir de l'établissement et de les amener en montagne. Donc de leur apprendre à faire un petit peu d'escalade, à marcher avec des crampons. Et puis, à la fin de la semaine, ils faisaient un sommet avec des guides qui les accompagnaient. Et j'avais lu un article là-dessus que j'avais trouvé... très fort, donc j'ai appelé le gars, je lui ai dit mais est-ce que vous allez renouveler votre opération? Il m'a dit ben au mois d'août on le refait, je pars avec 12 schizophrènes et on sera encadré par 5 ou 6 guides à l'époque je crois. Et je lui ai dit est-ce que vous seriez d'accord pour que je suive votre groupe pendant les 12 jours de votre stage? Et il m'a dit oui avec plaisir, donc voilà. Et je suis parti 12 jours avec eux, on est revenu, on a monté le film et puis j'ai eu la chance que le film plaise et il a été primé un peu partout en Europe.
Oui, vous avez eu pas mal de récompenses, en fait.
Oui. Ben oui, je ne peux pas vous dire le contraire. Oui, ça fait plaisir, bien sûr.
On peut les énumérer. Vous avez eu quel genre de prix?
Oh, c'est compliqué à dire.
Quelqu'un de modeste.
Non, mais c'est... Enfin bref, j'ai été primé au Festival d'Autran, évidemment, qui est un festival spécial montagne, à Trento en Italie, à Torello en Espagne, au Canada, à Montréal, voilà, au Maroc, j'en passe des meilleurs. Voilà.
Donc votre univers privilégié, en fait, c'est la nature, les grands espaces.
Oui, c'est ça.
Oui, donc vous avez choisi l'Islande pour ce premier long métrage qui s'appelle donc, je rappelle, Les éléphants perdus. Alors déjà, le titre vous est venu comment?
Alors en fait, ça devait s'appeler à la recherche de Björk. Et puis, quand j'ai eu l'agent de Björk, alors au départ, c'était Looking for Björk, voilà, en anglais. Et puis, quand j'ai eu l'agent de Björk, parce que je voulais avoir des musiques dans ce film qui soient de Björk, l'agent a refusé en me disant que de toute façon, Björk ne prenait jamais les musiques existantes qu'elle avait faites pour aller sur des images d'un autre, sauf si c'était pour ses films à elle.
D'accord.
Voilà, ou si elle participait au film en jouant, ce qui n'était pas le cas là au départ. Donc il m'a dit ça passera pas, vous aurez pas sa musique. Et je lui ai dit, et pour le titre, on a pensé à Looking for Björk, et il m'a dit méfiez-vous parce que si vous utilisez son nom, il peut y avoir des retours de demande de droit et vous risquez d'être surpris par le prix que ça peut coûter. Donc au bout d'un moment, on a changé le titre, voilà, tout simplement. Et donc je l'ai appelé Les éléphants perdus parce qu'il y a une chanson centrale dans le film qui s'appelle Les éléphants perdus et qui ressemble étrangement au thème de ce film, cette histoire, l'histoire de Paumé qui monte un escalier en se tenant par la main parce qu'ils sont sous et ils essayent de rentrer chez eux. Et ça s'appelle Les éléphants perdus, c'est une chanson de Jean-Claude Brumeau qui est un des chanteurs des Barbarin Fourchus. Donc comme je le connais bien, j'ai appelé Jean-Claude, je lui ai dit est-ce que tu es ok pour que je me permette d'emprunter le titre de ta chanson pour la mettre sur le film, et il m'a dit vas-y, pas de problème, donc voilà, ça s'appelle Les éléphants perdus.
Et pourquoi avoir choisi Björk? Est-ce que c'est la seule artiste en Islande ou c'est une préférence personnelle?
C'est pas la seule artiste, mais disons que c'est une des premières dans les années 80 qui est sorti de l'Islande. On a commencé à l'entendre en Angleterre et puis après en Europe avec un groupe qui s'appelait Sugar Cube. Et c'est un peu elle, la tête de file des artistes islandais de maintenant. Et comme elle est connue un peu dans le monde entier et que j'adore ce qu'elle fait, je me suis dit que ça donnait une bonne excuse à mes personnages pour aller traverser ce pays.
Donc alors ce film, il se passe donc en Islande, un pays très froid où il n'y a même pas d'arbres, j'ai vu.
Non, il n'y a pas d'arbres, enfin c'est un peu faux. Il y a un endroit à côté des Gilles Stadir où il y a une petite forêt d'aunes, de petits arbres qui font 2 mètres maximum. Il n'y a pas d'arbres parce qu'il y a beaucoup de vent, c'est une terre assez aride et les arbres ne tiennent pas, donc... C'est une des régions, c'est plutôt une région qui pourrait être assimilée à un Groenland, mais un peu plus chaud.
Oui.
Voilà, c'est un peu ça.
Il y a à peu près combien d'habitants?
Alors, c'est une bonne question. J'ai peur de dire des bêtises, mais je crois qu'ils sont autour de 400 ou 500 000, ce qui fait très peu, ça revient un peu à la population de la vallée grenobloise et encore. Par contre, sur une étendue qui est vaste comme pratiquement aussi grand que la France.
Ah oui. Et ils ont des moyens de communication comme nous,
les Ah oui, 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 ils sont même bien plus en avance que nous. Tout le monde a Internet là-bas. Ah. On ne bataille pas comme chez nous dans les montagnes de Chartreuse pour avoir Internet. Là, tout le monde a Internet. C'est des gens qui ont toujours communiqué avec l'extérieur puisqu'ils habitent sur une île et ils se sont toujours débrouillés avec les années pour tenter d'avoir une vie aussi heureuse que la nôtre, hein. C'est pas, donc ils sont très en avance. Par exemple, tout le monde parle l'anglais, voire une deuxième langue. Vous rencontrez un Islandais qui a 12-13 ans, vous lui posez une question en anglais, il vous répond, il parle couramment anglais, contrairement à chez nous. C'est des gens très ouverts au niveau de l'art, énormément d'écrivains. Alors est-ce que c'est dû au fait que la nuit est longue là-bas, puisque l'hiver, le pays reste dans le noir à peu près 3 mois dans l'année? Et vice-versa, hein, juin-juillet, il fait pratiquement jour tout le temps. Mais en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup d'écrivains, il y a pas mal de peintres. Il y a depuis une quinzaine d'années un cinéma très fort, un cinéma islandais qui est très, très fort. Il y a toujours très souvent produit soit par les Européens, soit par les Américains. Parce qu'il faut savoir que l'Islande était une base en 39-45, c'était une grosse base militaire des Américains. Donc il y a une grosse influence américaine sur le pays jusque dans les années 70 quand ils ont pris leur indépendance. Voilà.
Et vous avez dit que donc c'est un pays, quand on y est, on se pince pour être sûr qu'on existe. Pourquoi ouais. Vous avez dit ça?
Parce que c'est tellement grandiose. Moi j'y suis allé plusieurs fois, mais la première fois que j'y étais c'était en 80. J'y suis allé en stop avec une amie, on est parti de Grenoble, Paris, Londres, on a traversé l'Écosse, ensuite on a été sur les îles Féroé, et des îles Féroé on a été en Islande en bateau, on a fait le tour de l'Islande et puis on est rentré par Norvège, Suède, Danemark, Belgique, France. Et j'ai découvert la montagne mais au bord de l'eau, et j'ai trouvé ça extraordinaire, d'une beauté à couper le souffle. Et quand je suis revenu en 90, parce que j'avais envie de partager avec mon épouse ce pays, je lui ai dit on part là-bas, donc on avait une petite camionnette, une petite 4L, et puis on est parti là-bas avec un bout de matelas dans la voiture, des pâtes et du riz, et on a fait le tour de l'île, toujours pareil en y allant en bateau, et je me suis aperçu que le paysage n'avait absolument pas bougé. La piste numéro 1 qui fait le tour complet de l'Islande était maintenant bien goudronnée, contrairement dans les années 80, mais le paysage était toujours là, pas transformé. Il n'y a que la ville de Reykjavik qui avait un peu grandi, mais tout le reste était intact, et je me suis dit, mais ça veut dire que je peux raconter une histoire, le paysage sera toujours là, et ça m'a beaucoup intéressé pour écrire cette histoire.
Oui, parce qu'en fait, l'histoire est en lien, parce que c'est en même temps une histoire de grands espaces d'aventure et une histoire d'enfermement avec l'île et ces deux personnes qui se retrouvent coincées ensemble.
C'est ça. L'idée, c'était de les enfermer. C'était un huis clos au départ que j'avais écrit. Et puis quand j'ai commencé à retravailler dessus à l'écriture avec Jean Guyot, qui est le chef opérateur qui a fait les images du film et qui m'a aidé sur l'écriture, Jean il m'a dit, mais c'est un huis clos, mais en extérieur. Et je lui ai dit, ben oui, effectivement, t'as raison, je m'en étais pas aperçu. Et en fait, ils sont fermés. C'est-à-dire quand on est sur une île, on ne fait que tourner en rond. Dans un sens ou dans l'autre, et on ne peut pas s'échapper d'une île, c'est-à-dire qu'on a devant soi, on a la mer, et dans le dos, on a la montagne, et on est toujours en train de rencontrer les mêmes personnages qui font le tour de l'île avec vous, soit en vélo, soit à pied, soit en voiture, soit en camping-car maintenant, mais il y a toujours tous ces gens qui font le tour de l'île, et je trouvais intéressant pour mes personnages d'être obligés de se rencontrer. Ils sont obligés de se parler parce qu'ils sont enfermés dans cette voiture qui traverse l'île. Quand ils s'arrêtent le soir, ils rencontrent les gens qu'ils ont vus le matin. Et en plus, ils sont obligés. C'est un peu comme si vous alliez au psy. Vous vous mettez sur un divan et vous parlez avec quelqu'un. Et donc, vous vous livrez. Et là, quand vous êtes que deux et que vous tournez dans cette île qui vous enferme, vous êtes obligés de partager. Alors c'est soit en se criant dessus, ce qui peut être le cas dans certaines scènes du film, soit aussi en s'aimant, mais c'est le partage. L'humain a besoin de l'autre. Donc c'est un des exemples du film, c'est-à-dire que sans l'autre, on n'est rien. Et même si ça démarre mal parce que mes personnages sont totalement à l'opposé l'un de l'autre, on va s'apercevoir qu'au cours de l'histoire, finalement, grâce à l'un et grâce à l'autre, tout se remet en place correctement.
Oui, ça donne envie. Et vous parlez aussi du fait que dans cette île, les gens croient encore aux elfes. Est-ce que c'est une particularité des pays du Nord, ça ?
En tout cas, en Islande, c'est vrai que c'est un peu anecdotique, mais la route numéro 1 a été... Vous faites des lignes droites invraisemblables, et puis d'un seul coup, il y a un virage, et vous ne comprenez pas pourquoi on a fait ce virage-là. Et quand vous posez des questions aux fermiers d'à côté, ils vous disent, quand ils ont fait la route, nous, on sait qu'il y a des elfes ici, donc on leur a dit de contourner. Et... Il y a cette croyance qui est toujours là dans les pays nordiques, et notamment en Islande, que les elfes sont là. Mais je pense que c'est dû au paysage, c'est dû au vent, c'est dû à la mer, c'est dû au fait que l'hiver, il y a des tempêtes invraisemblables. Il y a beaucoup de gens qui se perdent aussi. J'ai été très étonné. Il y a énormément de gens qui se perdent. Alors volontairement ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas... Quand on était là-bas en repérage, j'étais tombé sur un journal, un quotidien, et qui donnait les emplacements sur l'île où les gens avaient disparu, avec leur nom, leur âge et leurs photos, si jamais on les retrouvait. Comme chez nous, quand quelqu'un, par exemple, se suicide. Mais là-bas, c'était dans le désert islandais. C'est-à-dire que, est-ce que c'est du suicide ? Est-ce que c'est des gens qui ont eu un accident en route ? C'est tellement vaste. Le téléphone ne passe pas partout. Je pense que si vous avez un pépin au milieu du désert volcanique, je pense qu'on vous retrouve pas, tout simplement.
On disparaît. Et donc, vous êtes revenu assez éprouvé de ce tournage. Vous avez failli laisser tomber carrément un moment.
Non, on n'a pas failli laisser tomber. Disons que j'ai eu de grandes interrogations parce que c'était difficile, parce que on avait une charge de travail énorme. En gros, chaque personne tenait 2 à 3 postes, donc c'est très compliqué. On peut pas faire du cinéma habituellement avec si peu de personnes. Ça devient presque du cinéma expérimental. Et pour le prochain film, d'ailleurs, je veux pas continuer dans cette voie-là. C'est trop dur, trop fatigant, trop difficile. On affronte tout un tas de problèmes qu'on peut pas tout résoudre. Donc on a eu beaucoup de chance, mais c'est vrai que j'ai eu des interrogations certains soirs où je me suis dit est-ce que je vais continuer demain, est-ce que je vais arriver à filmer l'histoire comme je l'ai racontée, est-ce qu'on aura le temps, parce qu'en fait on avait des billets low cost et donc on avait des dates précises de départ et des dates précises pour quitter le pays. On pouvait pas se permettre on devait quitter je crois que c'était le 11 octobre ou le 12, et si le 11 ou le 12 on n'avait pas tout filmé, le film s'écroulait parce que ça ne tenait plus. Donc j'avais tous ces soucis-là en permanence, tous les jours. Donc c'était difficile, voilà.
Donc c'est un voyage initiatique, c'est pas un film où on rit beaucoup, je pense.
Si, on rit aussi, mais comment dire, il y a de la gravité dans le propos, mais c'est pas non plus, on pleure pas tout le long, hein. Je vous rassure, venez au cinéma mercredi à Saint-Laurent-du-Pont à 20h30, vous allez voir, vous ressortirez... heureux d'avoir vu le film.
Oui, parce que je suis tombée sur un proverbe islandais qui dit « Un homme sombre est son propre ennemi ». En fait, vous comprenez comment ce proverbe, vous qui êtes allé là-bas et qui connaissez ça.
Un homme sombre est son propre ennemi.
En fait, il se nuit à lui-même en n'étant pas assez gai, je ne sais pas.
Je pense qu'il faut de la gaieté dans la vie et s'il n'y en a pas, ouais.
Oui.
Je pense.
Votre film se termine bien ?
Ben vous verrez. Je ne vais pas vous raconter la fin.
D'accord.
Je pense qu'il se termine bien, je crois.
Oui.
Il faudra me dire ça, puis on en discutera quand on aura vu le film mercredi soir.
Et on peut dire que l'acteur principal, c'est votre fils, en fait ?
Alors, il y a deux acteurs principaux, puisque c'est deux hommes qui traversent l'Islande. Moi je dirais même qu'il y a 3 acteurs principaux, puis il y a aussi une actrice, Marie Kaufmann. Mais oui, au départ, y a un duo qui va prendre le plus de temps et d'espace dans le scénario, ça, vous allez le découvrir. Mais disons qu'au départ, Johan, son métier, il a fait le conservatoire professionnel de Grenoble, donc il est comédien. Et quand j'ai écrit l'histoire, forcément, j'ai pensé à lui. Donc, quand je lui ai proposé l'histoire, au départ, il n'était pas très chaud. ça lui semblait une tâche insurmontable que de faire un premier long métrage comme ça. Puis je lui ai dit, de toute façon, tu n'as pas le choix, j'ai pas d'argent pour te payer, pour payer un comédien, donc il faut que ça soit toi.
Ah, je n'avais pas pensé à ça. Quand, oui, on peut les embaucher gratuitement, ces enfants.
Normalement, non, oui. Les lois françaises l'interdisent, mais on était en Islande, donc on a fait ce qu'on a voulu.
Voilà, la liberté totale.
Voilà.
Et le prochain film, c'est toujours en montagne ?
Alors oui, alors j'espère que je vais arriver à trouver un producteur. C'est l'adaptation cinématographique d'une BD qui s'appelle Elle froide de Jean-Marc Rochette et qui est sortie l'an dernier. Donc je suis pas très très BD, mais là j'ai été complètement abasourdi par cette histoire, l'histoire d'un gamin. Encore une fois, ça ressemble étrangement à mon film. C'est l'histoire d'un gamin qui va passer de l'adolescence à l'âge adulte, mais là à travers l'alpinisme. Et toute l'histoire est racontée tout se passe dans la vallée du Véléon, dans le massif de Loisan, c'est-à-dire au-dessus de Bourdoisan. Tout se passe entre dans le massif des Écrins. Et le parcours de ce gamin ressemble étrangement au parcours que j'ai eu moi. Donc quand j'ai rencontré Jean-Marc Rochette qui a dessiné cette BD, on a beaucoup discuté et échangé parce qu'on a vécu les mêmes péripéties. Il est du même âge que moi. Il venait dans ce lieu quand moi je venais dans ce lieu faire de l'alpinisme. Et finalement, son histoire m'a beaucoup touché. Et c'est son histoire d'enfance jusqu'à ce qu'il s'aperçoive qu'il ne pourra pas être guide de haute montagne et il préférera être dessinateur. Et c'est cette histoire que j'aimerais essayer de mettre en forme pour le cinéma.
Est-ce que vous imaginez tourner un film dans le désert africain, une région plate, chaude ?
Alors j'ai tourné en Afrique, j'ai tourné dans le Hoggar, dans le sud algérien. J'ai suivi un marathon pendant, c'était 10 fois... Je crois que c'était 10 jours, 10 fois 40 km par jour, il y a une vingtaine d'années, et les paysages sont sublimes. On dormait le soir en plein désert, on avait une équipe qui nous suivait avec des 4x4 pour amener l'eau, la nourriture et tout ça, et j'avais trouvé ça sublime, sauf qu'il manque un élément qui est primordial pour moi et dont j'avais besoin dans mon histoire, c'est la glace. Et les déserts sont beaux, mais il n'y a pas la glace. Et puis, j'ai été sur les îles Canaries pour voir si on ne pouvait pas, parce qu'il y avait à l'époque des billets pas chers du tout, si on ne pouvait pas faire le film plutôt sur les îles Canaries. Et pareil, on s'est aperçu qu'il y avait des endroits désertiques volcaniques très beaux, mais pareil, beaucoup trop chaud. Il n'y avait pas cette dans mon histoire, les hommes mettent les essuie-glaces parce qu'il pleut. Quand on se parle, on est toujours habillé avec quelque chose de chaud. Un des personnages a toujours une chapka sur la tête parce qu'il a froid. Il faut qu'on sente les éléments. Il ne fallait pas qu'ils soient en vacances. Il fallait que la nature les secoue un peu, les prenne un peu en main. Et ça, on ne l'avait pas dans le désert du Hoggar. On n'avait que de la chaleur. Pareil pour les îles Canaries. On a pensé aussi au Maroc que je connais bien, vers Agadir. Il y a une très belle route qui longe la mer, mais pareil, il n'y avait pas la glace, il n'y avait pas le froid, il y avait moins de magie. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi l'Islande.
Pour vous, la glace, c'est magique du coup?
Disons que dans mon histoire, l'eau est importante et je ne vais pas raconter l'histoire, mais vous verrez que dans l'histoire, l'eau est très importante. Il y a des cascades et l'eau joue. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où on a de la glace, on a des icebergs et on a l'eau on a la glace qui se déplace sur une rivière qui est emmenée. Il y a un endroit qui s'appelle Jökulsárló en Islande qui est très connu, où vous avez un immense glacier qui déverse chaque jour sa glace dans un immense lac, et ce lac se transforme en rivière, traverse la route numéro 1 et va se jeter dans la mer. Et là, il y a beaucoup de bouts de glace, donc d'iceberg, qui se trimballent comme ça, qui frottent. On entend la glace qui frotte le sol, et puis qui après bascule, et hop, petit à petit, aussitôt qu'elle a diminué, qu'elle a pu passer le cap, hop, ça part dans la mer. Et donc, il y a cette eau qui se transforme en permanence. Hein, elle devient solide, puis après, elle redevient liquide. Et je trouvais ça intéressant pour le film.
Oui, impressionnant tout ça. Et le réchauffement climatique, du coup, ça vous inquiète parce que la glace risque de disparaître?
Oui, alors ça m'inquiète encore plus que parce que la glace va disparaître. C'est qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants?
Voilà.
Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Ne serait-ce que nous, à Saint-Pierre-de-Chartreuse, si ça continue comme ça, où va la station? Il y a plus de 60 personnes en moyenne en hiver qui travaillent directement avec la station de ski. Ça veut dire que, et beaucoup d'enfants du pays travaillent à la station de ski. Ça veut dire que, bah, il y aura plus de travail. Donc, plus de tourisme. Je vois l'avenir assez sombre pour toute la région, en tout cas, à cause de ça. Et je pense qu'on a fait beaucoup trop de bêtises et qu'il faut faire marche arrière, quoi. Il faut vraiment qu'on passe à autre chose. Et j'avoue que j'ai pas de solution rapide. Et je pense que, si vous voulez le fond de ma pensée, je pense que notre président n'avance pas assez vite sur ce sujet. Je ne comprends pas qu'un gars aussi jeune n'ait pas tout de suite pigé le danger et ne soit pas mis en accord avec Hulot pour lutter tout de suite et à fond contre le réchauffement climatique.
Il a peut-être d'autres priorités, apparemment.
Oui, ben, si ses autres priorités, c'est encore de faire gagner de l'argent. Bon, bref.
Ouais, on ne va pas parler politique.
Non, on ne va pas parler politique, mais c'est aussi politique, le réchauffement climatique.
Oui, tout à fait.
Voilà, et je pense que les gens, maintenant, en prennent conscience. Il ne se passe pas une journée sans qu'un journal en parle. Il ne se passe pas une journée sans qu'une télé en parle. Je crois qu'à un moment donné, il faut passer à autre chose. Il faut changer de façon de vivre. Il faut arrêter la voiture avec le gasoil et l'essence et puis passer à l'électrique. Il y a moyen d'aller de l'avant autrement que comme on l'a fait jusqu'à présent. C'est les Américains qui ont inventé ça, vous savez, le moteur à explosion à grande échelle, c'est la Ford T. La Ford T, c'est Ford qui invente la première voiture qu'on construit à la chaîne et dont tout le monde veut. Mais dans les mêmes années, il y avait déjà des projets de voitures électriques. Mais on a mis le paquet sur le gasoil, sur le pétrole, pardon, parce qu'il y avait du pétrole aux États-Unis. Et puis voilà, le monde entier a embrayé là-dessus. Et on se retrouve maintenant avec des millions et des millions et des milliards de moteurs qui tournent avec du pétrole. C'est complètement dingue.
Ça me fait penser à une phrase qui m'a particulièrement interpellée dans votre film. Ouais. Un moment, un des acteurs dit qu'en fait, ses enfants, finalement, il est content de les avoir élevés dans la pauvreté. Ils ont de la chance d'avoir eu un père qui n'avait pas d'argent. Et ça m'a vraiment fait tilt. C'est quelque chose que vous pensez?
Ben, disons que c'était avec une pointe d'humour. C'est dit avec une pointe d'humour. D'ailleurs, souvent, les gens rient à cette réflexion. Je sais pas, mais disons que je pense pas que tout le monde sait ça, mais je vais dire quelque chose qui est idiot et en même temps qui est tellement vrai. L'argent fait pas le bonheur, donc... voilà quoi.
Et d'autant plus peut-être si on grandit d'entrée en en ayant beaucoup et que du coup on passe à côté de la réalité.
Oui, bien sûr. Bien sûr.
Bon, en tout cas, si vous voulez en savoir plus, allez voir ce film, Les éléphants perdus de Claude Andrieux. Donc le 25 septembre au cinéma Le Quartus à 20h30.
Mercredi.
Ensuite, oui, il y aura un ciné-débat, donc avec Claude Andrieux qui sera là. Il y aura que vous de l'équipe?
Je pense qu'il y aura la monteuse qui est laurentinoise, c'est mon épouse, Françoise Bernard, qui est née ici et qui a vécu toute son enfance à Saint-Laurent-du-Pont, et elle sera là aussi. Ouais.
Bon. Ouais. Et on le disait, peut-être qu'il y a une rediffusion le 30.
Je crois qu'il y a une deuxième diffusion, mais
je vous préciserai ça une autre fois.
Voilà, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble bien que sur le programme du Quartus, il y a une autre projection le lundi qui suit.
D'accord. Donc, merci d'être venu, Claude Andrieux. Ça permet de savoir un petit peu à quoi s'attendre. Et puis, ça a l'air particulier et assez magique. On va écouter Jean-Michel Karadec, Ma Bretagne quand elle pleut.
Grand-mère lavait nos chemises au lavoir près de la remise. Le chat faisait le gros dos sur l'âtre auprès du feu. Quelle est belle ma Bretagne quand elle pleut. Papa nous contait des légendes, de trésors enfouis sous la lande. Maman cachait quelques pièces sous des draps très vieux. Qu'elle est belle, ma Bretagne, quand elle pleut. Et la petite fille de l'école, je crois qu'elle avait la rougeole. J'ai jamais osé lui dire que j'étais amoureux. Qu'elle est belle, ma Bretagne, quand elle pleut. Et je rêvais de la Garonne, des bûcherons, des bûcheronnes. Le petit bois de chez nous a fini dans le feu. Qu'elle est belle, ma Bretagne, quand elle pleut. Tous les marins qui se souviennent des barques qui jamais ne reviennent ont une envie de la mer quand même au fond des yeux. Qu'elle est belle, ma Bretagne, quand elle pleut. Quand je revois tous ces visages, je ne sais même plus mon âge. En regardant des photos, c'est fou ce qu'on est vieux. Qu'elle est belle, ma Bretagne, quand elle pleut. Qu'elle est belle, ma Bretagne, quand elle pleut.
Et voilà, on n'est pas trop dépaysé avec la Bretagne après l'Islande. Et donc, c'est en fait l'anniversaire de Jean-Michel Caradec. Il est né le 20 septembre 46. Et on va rester toujours dans les mêmes atmosphères parce que figurez-vous que le 20 septembre 90, c'était la naissance de Marie-Lou Bourdon au Canada. Donc, une auteure, compositrice, interprète québécoise. Et on l'écoute tout de suite avec un morceau qui s'appelle « Chante ».
Grandir dans des draps de soie et croiser une guerre. Mais ne perds jamais ça, ce cadeau, ce besoin, ce combat. Et chante pour tous comme pour toi, pour soigner tes blessures, pour la joie d'un ami. Tu peux vivre en croyant avoir tout et perdre l'essentiel. Et n'oublie jamais ça. Tu peux douter, tomber à genoux, te détourner du ciel. Mais ne perds jamais ça. Cette force, cet élan, cet espoir. Et pierre et deux.
et c'est aujourd'hui aussi l'anniversaire de Sophia Loren, figurez-vous, elle a 85 ans. Mais malheureusement, le 20 septembre, c'est aussi un jour où des personnes nous ont quittés. Et dans les personnes en question, il y a Rému qui nous a quittés en 1946, ça date pas d'hier. Mais on va écouter un petit sketch afin de retrouver le sourire.
Écoutez-moi bien, il y a une question que je veux vous poser, une question très grave. Est-ce que vraiment je suis coléreux? Quoi?
Je fais...
Et toi, Escartefille, pourquoi tu ne réponds pas?
Mon cher, je ne suis pas bon juge. Depuis 65 ans que tu es au monde, tu dois bien savoir ce que tu es.
Ça, ce n'est pas prouvé.
On ne sait pas toujours ce qu'on est. Il y en a qui sont cocus, qui ne le savent pas.
Oui, à moins que leurs amis ne leur disent 10 fois par jour.
Oh, 10 fois par jour. C'est la première fois que je t'en parle depuis une semaine. Mais réponds à ma question. Depuis tout à l'heure, je me demande avec angoisse si je n'ai pas commis de graves erreurs, si je n'ai pas été injuste, si je ne suis pas en somme une vieille bête, et si tout ça ne viendrait pas d'une tendance maladive à me mettre en colère.
Tu as dit maladive? Par conséquent, ça regarde le docteur. Allons, docteur, réponds-lui.
Et toi, tu ne peux pas me répondre?
Et je craindrais de me tromper, moi.
Et tu ris comme un imbécile. Comment un ami de 30 ans te pose une question grave, une question venue du cœur, et tu réponds par des ricanements?
César!
Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce rire? Ça veut dire que je suis une vieille bourrique.
Allons, César.
Comme par ton refus de me répondre, tu fais semblant de dire, sans le dire, que je suis coléreux et que tu as peur de ma colère. Et vous aussi, monsieur Brun. Vous ne répondez rien, mais vous faites semblant d'en penser le double. Quant à avec son air supérieur, je me fous de ce qu'il ne dit pas et de sa coqueluche et des vieillards. Mais qu'est-ce que ça veut dire à la fin? Depuis 30 ans, vous venez chez moi tous les jours et vous dites que je suis coléreux? Je supporte la stupidité des Scartefigues et vous dites que je suis coléreux? Je supporte les lyonnaiseries de M. Brun et vous dites que je suis coléreux? Je supporte le silence de ce médecin des chèvres et vous dites que je suis coléreux? Je supporte la présence de ce petit macaque, ce chauffeur, qui ne fait jamais ses consommations et qui de plus ne boit jamais rien et vous dites que je suis coléreux? Ce petit macaque-là, hier, je lui dis, tiens, sers-moi un piquant. Il me sert un piquant. Il donne-moi de l'eau de sel.
Donc, pour les infos locales, il y a tellement de choses à faire là ce week-end. Il y a la foire aux chèvres à Saint-Aupre, les journées du patrimoine un petit peu partout et j'ai reçu hier Eric de Thuny au sujet de ce qui se passe à Miribel, c'est extrêmement dense. Il y a bien sûr aussi Trésor de Chartreuse. Radio Couleur Chartreuse a le plaisir de vous présenter une très nouvelle manifestation en Chartreuse dont le nom est Trésor de Chartreuse. Du 12 au 22 septembre, on va vraiment se régaler avec 11 jours de conférences, d'expositions, d'animations, de spectacles, de festivités et de partage. Et avec surtout le plaisir à faire ensemble grâce aux associations et aux structures du territoire Cœur de Chartreuse pour célébrer le patrimoine matériel et immatériel immense de la Chartreuse. Comme le programme est très touffu, vous pouvez le consulter sur www.trésordechartreuse.com et sachez déjà que cet événement va avoir lieu sur 5 communes. Le 14 septembre, c'est à Entre-deux-Guiers-les-Échelles, le 15 à Saint-Pierre-de-Chartreuse, le 21 à Saint-Laurent-du-Pont et pour finir le 22 à Saint-Pierre-d'Entremont. Alors sur le thème patrimoine et travail, c'est une opportunité exceptionnelle de célébrer ensemble notre territoire et de découvrir le trésor que chaque commune a choisi. Plein de rendez-vous à ne pas manquer du 12 au 22 septembre avec Trésor de Chartreuse et 4 jours de fête chartreusine très intense. Et en amont, pour tout savoir, plein d'émissions et d'interviews sur Radio Couleur Chartreuse. Et au cinéma Le Cartus, ce soir à 20h30, il y a un film qui s'appelle Les Baronnes. C'est un drame, un policier, un thriller. C'est un film américain interdit au moins de 12 ans. Ça se passe en 1978 à New York. Il y a Cathy, Ruby et Claire qui sont des épouses de mafieux. Et leur vie bascule parce que leurs maris sont envoyés en prison par le FBI. Elles sont obligées de reprendre en main les affaires familiales. On écoute la bande-annonce.
Les temps changent. Faut s'adapter. Pour les gosses.
Les patrons n'aiment pas les mères de famille. Le marché est compétitif.
Vous me connaissez mal.
Pour le fric. Faut survivre.
C'est peut-être le moment.
Pourquoi ?
pour toi.
Nos maris ont encore 24 mois à tirer.
Désolé, bébé.
C'est la mafia irlandaise, le crime organisé.
Ça va aller, les filles. On va s'occuper de vous.
On n'a pas de fric. Ce qu'ils m'ont donné hier soir, ça couvre même pas le loyer.
Sa famille voulait pas de moi depuis le départ.
40 ans qu'on les paye pour nous protéger, on n'a rien en retour.
Depuis toujours, ils nous rabâchent qu'on fera jamais rien à part des gosses. Une bande de mecs qui ont oublié le sens du mot famille.
Et si on le leur rappelait ?
T'es jolie, maman.
L'apparence, c'est rien. C'est qu'un outil dont les femmes se servent.
Pour faire quoi ?
Ben, tout ce qu'on veut.
Et toi, tu veux quoi ?
On va placer des équipes partout.
Je vois bien que vous êtes pas bête et je sais que vous êtes riche. Mais nous, on a quelque chose que vous avez pas. Des hommes de main.
Je t'ai déjà dit qu'il était pas question qu'on bosse pour des gonzesses.
Ne vous croyez pas plus maligne que moi. Je vais vous rayer de la surface du globe.
Je veux pas que tu le fasses. Ce que je voudrais, c'est que tu m'apprennes à le faire.
Que les choses soient claires, maintenant c'est nous qui tenons le quartier.
Ne mêle pas de mon business.
Chérie, c'est mon business maintenant.
Elles vont engloutir New York tout entier. Quand on déclenche une guerre, faut aller jusqu'au bout.
Alfonso Coretti veut discuter.
Si on va à Brooklyn, on est morte.
Comment faut s'habiller pour ces trucs-là ? Faut être chic, non ?
Tu rigoles ?
Quoi ?
Merde, j'ai encore perdu le fil.
Alors, je sais pas vous, mais moi, le temps me convient bien en ce moment. Alors, le matin, il fait frais, 9 degrés ce matin à Grenoble, jusqu'à 24 degrés dans l'après-midi. Donc, l'après-midi, on a le soleil, mais pas trop la chaleur. Demain, ce devrait être pareil, température entre 12 et 26 degrés, à peine quelques petits nuages. Par contre, dimanche, ça risque d'être plus chaotique et instable, température entre 17 et 24, avec un risque de pluie. Lundi, toujours un petit risque de pluie, température entre 14 et 23. Mardi, ce devrait être un petit peu nuageux. Mercredi, ça redevient pluvieux a priori, mais bon, comme ça porte loin, on n'est pas sûr non plus. Mercredi, a priori, température entre 17 et 19 avec de la pluie. Du côté de l'horoscope, alors Bélier, comme d'habitude, retenez les mots qui jaillissent un petit peu malgré vous, parce que des fois ça cause certains problèmes. Taureau, vos amis vous sauront vous prouver qu'ils pensent assez souvent à vous. Gémeaux, méfiez-vous des paroles que l'on lâche sans l'idée de blesser, des fois elles font encore plus mal que les autres. Cancer, indiquez très exactement quelles sont vos ambitions sentimentales, si vous en avez bien sûr. Lion, on vous parle de désir, n'en profitez pas pour évoquer vos craintes. Vierge, pour d'éventuels reproches, attendez donc un moment plus favorable. Balance, les mots sont bien souvent impuissants pour traduire les sentiments. Scorpion, vous attendez beaucoup de votre partenaire et vous attendez beaucoup trop, sachez-le. Sagittaire, les routines vous pèsent, mais qu'est-ce que vous pourriez offrir en échange ? Vous avez tout le week-end pour y réfléchir. Capricorne, vous réaliserez aujourd'hui que votre bonjour, c'était plutôt hier. Dommage. Verseau, essayez de mettre davantage de fantaisie dans votre vie sentimentale. Poisson, ne demandez pas l'impossible à votre partenaire si vous en avez un, mais seulement l'essentiel. Donc c'est à réfléchir, là vous avez tout le week-end aussi. Et on va se faire plaisir, enfin j'espère que ce sera votre cas aussi. On va écouter Indochine, j'ai demandé à la lune et on peut chanter en même temps si on le veut.
Je lui ai montré mes brûlures et la lune s'est...
et comme le ciel n'avait pas fière allure et que je ne guérissais pas, je me suis dit quelle infortune, et la lune s'est moquée de moi. J'ai demandé à la lune si tu voulais encore de moi. Elle m'a dit j'ai pas l'habitude de m'occuper des cas comme ça. Et toi et moi, on était tellement sûrs et on se disait quelquefois.
Radio Couleur Chartreuse, au cœur du massif.
Et voilà, c'est déjà la fin de notre Chartreuse Info. Alors, je vous souhaite un week-end riche en découvertes. Il y a plein de choses à faire et à voir ce week-end en Chartreuse. Bon week-end donc à tous et à toutes. On se retrouve lundi. Ciao, bye bye. Et on se quitte avec Benabar, l'effet papillon.
Si le battement d'aile d'un papillon quelque part au Cambodge déclenche sur un autre continent le plus violent des orages, le choix de quelques-uns dans un bureau occidental bouleverse des millions de destins, surtout si le bureau est ovale. Il n'y a que l'ours blanc qui s'étonne que sa banquise fonde. Ça ne surprend plus personne de notre côté du monde. Quand le financier s'enrhume, ce sont les ouvriers qui toussent. C'est très loin la couche d'ozone, mais c'est d'ici qu'on la perce. C'est l'effet papillon, petite cause, grande conséquence. Pourtant jolie comme expression, petite chose, dégâts immenses. Qu'on l'appelle retour de flamme ou théorie des dominos, un murmure devient vacarme, comme dit le proverbe à propos. Si au soleil tu t'endors, de biafine tu t'enduiras. Si tu mets une claque au videur, courir très vite tu devras. Si on se gave au resto, c'est un fait, nous grossirons. Mais ça c'est l'effet cachalot. Revenons à nos moutons,
à nos papillons.
Un hôtel, un après-midi, aventure extra-conjugale, puis le coup de boule de son mari. Alors, si ton nez te fait mal, c'est l'effet papillon. C'est normal, fallait pas te faire choper. Si par contre t'as mal au front. Ça veut dire que c'est toi le mari trompé.